Le temps retrouvé, chapitre 3, suite. Que devient la marquise d'Arpajon ? Demanda madame de Cambremer.
Mais elle est morte, répondit Bloch.
Vous confondez avec la comtesse d'Arpajon qui est morte l'année dernière. La princesse de Malte se mêla à la discussion. Jeune veuve d'un vieux mari très riche et porteur d'un grand nom, elle était beaucoup demandée en mariage et en avait pris une grande assurance. La marquise d'Arpajon est morte aussi il y a à peu près un an.
Ah, un an ? Je vous réponds que non, répondit madame de Cambremer.
J'ai été à une soirée de musique chez elle il y a moins d'un an. Bloch, pas plus que les gigolos du monde, ne put prendre part utilement à la discussion, car toutes ces morts de personnes âgées étaient à une distance de trop grande, soit par la différence énorme des années, soit par la récente arrivée de Bloch, par exemple, dans une société différente qu'il abordait de biais, au moment où elle déclinait, dans un crépuscule où le souvenir d'un passé qui ne lui était pas familier ne pouvait l'éclairer. Et pour les gens du même âge et du même milieu, la mort avait perdu de sa signification étrange. D'ailleurs, on faisait tous les jours prendre des nouvelles de tant de gens à l'article de la mort, et dont les uns s'étaient rétablis tandis que d'autres avaient succombé, qu'on ne se souvenait plus au juste si telle personne qu'on n'avait jamais l'occasion de voir s'était sortie de sa fluxion de poitrine ou avait trépassé. La mort se multipliait et devenait plus incertaine dans ces régions âgées. À cette croisée de deux générations et de deux sociétés, qui, en vertu de raisons différentes, mal placées pour distinguer la mort, la confondaient presque avec la vie, la première s'était mondanisée, était devenue un incident qui qualifiait plus ou moins une personne, sans que le ton dont on parlait eût l'air de signifier que cet incident terminait tout pour elle. On disait « Mais vous oubliez, un tel est mort !» Comme on eût dit « Il est décoré !» L'adjectif était autre, quoique pas plus important. « Il est de l'Académie !» Ou, et cela revenait au même, puisque cela empêchait aussi d'assister aux fêtes, « Il est allé passer l'hiver dans le Midi !» On lui a ordonné les montagnes. Encore, pour des hommes connus, ce qu'ils laissaient en mourant aidait à se rappeler que leur existence était terminée. Mais pour les simples gens du monde très âgés, on s'embrouillait sur le fait qu'ils fussent morts ou non, non seulement parce qu'on connaissait mal ou qu'on avait oublié leur passé, mais parce qu'ils ne tenaient en quoi que ce soit à l'avenir. Et la difficulté qu'avait chacun de faire un triage entre les maladies, l'absence, la retraite à la campagne, la mort des vieilles gens du monde, consacrait, tout autant que l'indifférence des hésitants, l'insignifiance des défunts.
Mais si elle n'est pas morte, comment se fait-il qu'on ne la voie plus jamais, ni son mari non plus ?
Demanda une vieille fille qui aimait faire de l'esprit.
Mais je te dirai, reprit la mère, qui, quoique quinquagénaire, ne manquait pas une fête, que c'est parce qu'ils sont vieux, et qu'à cet âge-là, on ne sort plus.
Il semblait qu'il y eût, avant le cimetière, toute une cité close des vieillards, aux lampes toujours allumées dans la brume. Madame de Sainte-Verte trancha le débat en disant que la comtesse d'Arpajon était morte, il y avait un an, d'une longue maladie, mais que la marquise d'Arpajon était morte aussi depuis, très vite, d'une façon tout à fait insignifiante. Mort qui, par là, ressemblait à toutes ses vies, et par là aussi, expliquait qu'elle eût passé inaperçue, excusait ce qui confondait. En entendant que madame d'Arpajon était vraiment morte, la vieille fille jeta sur sa mère un regard alarmé, car elle craignait que d'apprendre la mort d'une de ses contemporaines ne la frappât.
Elle croyait entendre d'avance parler de la mort de sa propre mère avec cette explication. Elle avait été très frappée par la mort de Madame d'Arpajon. Mais la mère, au contraire, se faisait à elle-même l'effet de l'avoir emportée dans un concours sur des concurrents de marque, chaque fois qu'une personne de son âge disparaissait. Leur mort était la seule manière dont elle prit encore agréablement conscience de sa propre vie. La vieille fille s'aperçut que sa mère, qui n'avait pas semblé fâchée de dire que Madame d'Arpajon était recluse dans les demeures d'où ne sortent plus guère les vieillards fatigués, l'avait été moins encore d'apprendre que la marquise était entrée dans la cité d'après, celle d'où on ne sort plus. Cette constatation de l'indifférence de sa mère amusa l'esprit caustique de la vieille fille. Et pour faire rire ses amis, plus tard, elle fit un récit désopilant de la manière allègre, prétendait-elle, dont sa mère avait dit, en se frottant les mains, « Mon Dieu, il est bien vrai que cette pauvre Madame d'Arpajon est morte !» Même pour ceux qui n'avaient pas besoin de cette mort pour se réjouir d'être vivants, elle les rendit heureux. Car toute mort est pour les autres une simplification d'existence, ôte le scrupule de se montrer reconnaissant, l'obligation de faire des visites. Toutefois, comme je l'ai dit, ce n'est pas ainsi que la mort de Monsieur Verdurin avait été accueillie par Elstir. Une dame sortit, car elle avait d'autres matinées et devait aller goûter avec deux reines. C'était cette grande cocotte du monde que j'avais connue autrefois, la princesse de Nassau. Mais à part le fait que sa taille avait diminué, ce qui lui donnait l'air, par sa tête située à une bien moindre hauteur qu'elle n'était autrefois, d'avoir ce qu'on appelle un pied dans la tombe. On aurait à peine pu dire qu'elle avait vieilli. Elle restait une Marie-Antoinette au nez autrichien, au regard délicieux, conservée, embaumée, grâce à mille fards adorablement unis qui lui faisaient une figure lilas. Il flottait sur elle cette expression confuse et tendre d'être obligée de partir, de promettre tendrement de revenir, de s'esquiver discrètement, qui tenait à la foule des réunions d'élite où on l'attendait. Née presque sur les marches d'un trône, mariée trois fois, entretenue longtemps et richement par de grands banquiers, sans compter les mille fantaisies qu'elle s'était offertes, elle portait légèrement, comme ses yeux admirables et ronds, comme sa figure fardée et comme sa robe mauve, les souvenirs un peu embrouillés de ce passé innombrable. Comme elle passait devant moi, en se sauvant à l'anglaise, je la saluai. Elle me reconnut, elle me serra la main, et fixa sur moi ses rondes prunelles mauves de l'air qui voulait dire « Comme il y a longtemps que nous nous sommes vus, nous parlerons de cela une autre fois. » Elle me serrait la main avec force, ne se rappelant pas au juste si, en voiture, un soir qu'elle me ramenait de chez la duchesse de Guermantes, il y avait eu ou non une passade entre nous. À tout hasard, elle sembla faire allusion à ce qui n'avait pas été, chose qui ne lui était pas difficile, puisqu'elle prenait un air de tendresse pour une tarte aux fraises, et revêtait, si elle était obligée de partir avant la fin de la musique, l'attitude désespérée d'un abandon, qui toutefois ne serait pas définitif. Incertaine, d'ailleurs, sur la passade avec moi, son serrement furtif ne s'attarda pas, et elle ne dit pas un mot. Elle me regarda seulement, comme j'ai dit, d'une façon qui signifiait qu'il y a longtemps, et où repassaient ses maris, les hommes qu'il avait entretenus, de guerre, et ses yeux stellaires, semblables à une horloge astronomique taillée dans une opale, marquèrent successivement toutes ces heures solennelles d'un passé si lointain, qu'elle retrouvait à tout moment quand elle voulait vous dire un bonjour, qui était toujours une excuse. Puis, m'ayant quittée, elle se mit à trotter vers la porte pour qu'on ne se dérangeât pas pour elle, pour me montrer que, si elle n'avait pas causé avec moi, c'est qu'elle était pressée, pour rattraper la minute perdue à me serrer la main, afin d'être exacte chez la reine d'Espagne qui devait goûter seule avec elle. Même près de la porte, je crus qu'elle allait prendre le pas de course. Elle courait, en effet, à son tombeau. Pendant ce temps, on entendait la princesse de Guermantes répéter d'un air exalté et d'une voix de ferraille que lui faisait son râtelier. « Oui, c'est cela, nous ferons clan, nous ferons clan. J'aime cette jeunesse si intelligente, si participante. Ah, quelle musicienne vous êtes !» Elle parlait, son gros monocle dans son œil rond, mi-amusé, mi-s'excusant de ne pouvoir soutenir la gaieté longtemps. Mais jusqu'au bout, elle était décidée à participer, à faire clan. Je m'étais assis à côté de Gilberte de Saint-Loup. Nous parlâmes beaucoup de Robert. Gilberte en parlait sur un ton déférent, comme si c'eût été un être supérieur, qu'elle tenait à me montrer qu'elle avait admiré et compris. Nous nous rappelâmes l'un à l'autre combien les idées qu'il exposait jadis sur l'art de la guerre, car il lui avait souvent redit à Tansonville les mêmes thèses que je lui avais entendues exposer à Doncières et plus tard. C'était souvent, et en somme, sur un grand nombre de points trouvés vérifiés par la dernière guerre. Je ne puis vous dire à quel point la moindre des choses qu'il me disait à Doncières et aussi pendant la guerre me frappe maintenant. Les dernières paroles que j'ai entendues de lui quand nous nous sommes quittés, pour ne plus nous revoir, étaient qu'il attendait Hindenburg, général napoléonien, à un des types de la bataille napoléonienne, celle qui a pour but de séparer deux adversaires. Peut-être, avait-il ajouté, les Anglais et nous. Or, à peine un an après la mort de Robert, un critique pour lequel il avait une profonde admiration et qui exerçait visiblement une grande influence sur ses idées militaires, M. Henri Bidoux, disait que l'offensive d'Hindenburg en mars 1918, c'était la bataille de séparation d'un adversaire massé contre deux adversaires en ligne, manœuvre que l'empereur a réussi en 1796 sur l'Apennin, et qu'il a manqué en 1815 en Belgique. Quelques instants auparavant, Robert comparait devant moi les batailles à des pièces où il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'a voulu l'auteur, ou lui-même a changé son plan en cours de route. Or, pour cette offensive allemande de 1918, sans doute, en l'interprétant de cette façon, Robert ne serait pas d'accord avec M. Bidoux. Mais d'autres critiques pensent que c'est le succès d'Hindenburg dans la direction d'Amiens, puis son arrêt forcé, son succès dans les Flandres, puis l'arrêt encore, qui ont fait, accidentellement en somme, d'Amiens puis de Boulogne, des buts qu'il ne s'était pas préalablement assignés. Et chacun pouvant refaire une pièce à sa manière, il y en a qui voient dans cette offensive l'annonce d'une marche foudroyante sur Paris. D'autres des coups de boutoir désordonnés pour détruire l'armée anglaise. Et même si les ordres donnés par le chef s'opposent à telle ou telle conception, il restera toujours aux critiques le moyen de dire, comme Mounet-Sully à Coquelin, qu'il assurait que le misanthrope n'était pas la pièce triste, dramatique qu'il voulait jouer. Car Molière, au témoignage des contemporains, en donnait une interprétation comique et y faisait rire. Eh bien, c'est que Molière se trompait. « Et sur les avions ?» répondit Gilberte. « Vous rappelez-vous quand il disait ?» Il avait de si jolies phrases. « Il faut que chaque armée soit un Argus aux 100 tieux. » Hélas, il n'a pas pu voir la vérification de ses dires. « Mais si, » répondis-je, « à la bataille de la Somme, il a bien su qu'on a commencé par aveugler l'ennemi en lui crevant les yeux. » En détruisant ses avions et ses ballons captifs. Ah oui, c'est vrai. Et comme depuis qu'elle ne vivait plus que pour l'intelligence, elle était devenue un peu pédante. Et lui qui prétendait aussi qu'on reviendrait aux anciens moyens.
Savez-vous que les expéditions de Mésopotamie dans cette guerre... » Elle avait dû lire cela à l'époque dans les articles de Brichot. « Évoque à tout moment, inchangé, la retraite de Xénophon. Et pour aller du Tigre à l'Euphrate, le commandement anglais s'est servi de Bellone, bateaux longs et étroits, gondoles de ce pays, et dont se servaient déjà les plus antiques chaldéens. »
Ces paroles me donnaient bien le sentiment de cette stagnation du passé, qui, dans certains lieux, par une sorte de pesanteur spécifique, s'immobilise indéfiniment, si bien qu'on peut le retrouver tel quel. Et j'avoue que, pensant aux lectures que j'avais faites à Balbec, non loin de Robert, j'étais très impressionnée, comme dans la campagne de France de retrouver la tranchée de Madame de Sévigné. En Orient, à propos du siège de Kout el Amara, Kout l'émir, comme nous disons, vaut le vicomte et Boileau l'évêque, aurait dit le curé de Combray, s'il avait étendu sa soif d'étymologie aux langues orientales. De voir revenir, auprès de Bagdad, ce nom de Bassora, dont il est tant question dans les mille et une nuits, et que gagne chaque fois, après avoir quitté Bagdad ou avant d'y rentrer, pour s'embarquer ou débarquer, bien avant le général Townsend, au temps du calife Sinbad le marin. Il y a un côté de la guerre qu'il commençait à apercevoir, dis-je. C'est qu'elle est humaine, se vit comme un amour ou comme une haine, pourrait être racontée comme un roman, et que par conséquent, si tel ou tel va répétant que la stratégie est une science, cela ne l'aide en rien à comprendre la guerre, parce que la guerre n'est pas stratégique. L'ennemi ne connaît pas plus nos plans que nous ne savons le but poursuivi par la femme que nous aimons. Et ces plans, peut-être, ne les savons-nous pas nous-mêmes. Les Allemands, dans l'offensive de mars 1918, avaient-ils pour but de prendre Amiens? Nous n'en savons rien. Peut-être ne le savaient-ils pas eux-mêmes. Et est-ce l'événement de leur progression à l'ouest, vers Amiens, qui détermina leur projet? À supposer que la guerre soit scientifique, encore faudrait-il la peindre comme Elstir peignait la mer, par l'autre sens, et partir des illusions, des croyances qu'on rectifie peu à peu, comme Dostoïevski raconterait une vie. D'ailleurs, il est trop certain que la guerre n'est point stratégique, mais plutôt médicale, comportant des accidents imprévus que le clinicien pouvait espérer éviter, comme la révolution russe. Dans toute cette conversation, Gilberte m'avait parlé de Robert avec une déférence qui semblait plus s'adresser à mon ancien ami qu'à son époux défunt. Elle avait l'air de me dire « Je sais combien vous l'admiriez. Croyez bien que j'ai su comprendre l'être supérieur qu'il était. » Et pourtant, l'amour que certainement elle n'avait plus pour son souvenir était peut-être encore la cause lointaine de particularités de sa vie actuelle. Ainsi, Gilberte avait maintenant pour ami inséparable André. Quoique celle-ci commençât, surtout à la faveur du talent de son mari et de sa propre intelligence, à pénétrer, non pas certes dans le milieu des guermantes, mais dans un monde infiniment plus élégant que celui qu'elle fréquentait jadis. On fut étonné que la marquise de Saint-Loup condescendît à devenir sa meilleure amie. Le fait sembla être un signe, chez Gilberte, de son penchant pour ce qu'elle croyait une existence artistique et pour une véritable déchéance sociale. Cette explication peut être la vraie. Une autre pourtant vint à mon esprit, toujours fort pénétré de ce fait que les images que nous voyons assemblées quelque part sont généralement le reflet, ou d'une façon quelconque, l'effet d'un premier groupement, assez différent quoique symétrique, d'autres images extrêmement éloignées du second. Je pensais que si on voyait tous les soirs ensemble André, son mari et Gilberte, c'était peut-être parce que, tant d'années auparavant, on avait pu voir le futur mari d'André vivant avec Rachel, puis la quittant pour André. Il est probable que Gilberte, alors, dans le monde trop distant, trop élevé où elle vivait, n'en avait rien su. Mais elle avait dû l'apprendre plus tard, quand André avait monté et qu'elle-même avait descendu assez pour qu'elle pût s'apercevoir. Alors avait dû exercer sur elle un grand prestige de la femme pour laquelle Rachel avait été quittée par l'homme, pourtant séduisant sans doute, qu'elle avait préféré à Robert. Ainsi peut-être la vue d'André rappelait à Gilberte le roman de jeunesse qu'avait été son amour pour Robert, et lui inspirait aussi un grand respect pour André, de laquelle était toujours amoureux un homme tant aimé par cette Rachel que Gilberte sentait avoir été plus aimée de Saint-Loup qu'elle ne l'avait été elle-même. Peut-être, au contraire, ces souvenirs ne jouaient-ils aucun rôle dans la prédilection de Gilberte pour ce ménage artiste, et fallait-il y voir simplement, comme chez beaucoup, l'épanouissement des goûts, habituellement inséparables chez les femmes du monde, de s'instruire et de s'encanailler. Peut-être Gilberte avait-elle oublié Robert, autant que moi Albertine. Et si même elle savait que c'était Rachel que l'artiste avait quitté pour André, ne pensait-elle jamais, quand elle les voyait, à ce fait qui n'avait jamais joué aucun rôle dans son goût pour eux? On aurait pu décider, si mon explication première n'était pas seulement possible, mais était vraie, que grâce au témoignage des intéressés. Seul recours qui reste en pareil cas, s'ils pouvaient apporter dans leur confidence de la clairvoyance et de la sincérité. Or, la première s'y rencontre rarement, et la seconde jamais. « Mais comment venez-vous dans des matinées si nombreuses ?» me demanda Gilberte. « Vous retrouvez dans une grande tuerie comme cela, ce n'est pas ainsi que je vous schématisais. » Certes, je m'attendais à vous voir partout ailleurs qu'à un des grands tralala de ma tante, puisque tant il y a, ajouta-t-elle d'un air fin, car étant madame de Saint-Loup depuis un peu plus longtemps que madame Verdurin n'était entrée dans la famille, elle se considérait comme une guermante de tout temps, et atteinte par la mésalliance que son oncle avait faite en épousant madame Verdurin, qu'il est vrai, elle avait entendu railler mille fois devant elle. Dans la famille, tandis que, naturellement, ce n'était que hors de sa présence qu'on avait parlé de la mésalliance qu'avait faite Saint-Loup en l'épousant. Elle affectait, d'ailleurs, d'autant plus de dédain pour cette tante mauvais teint que la princesse de Guermantes, par l'espèce de perversion qui pousse les gens intelligents à s'évader du chic habituel, par le besoin aussi de souvenirs qu'ont les gens âgés, pour tâcher de donner un passé à son élégance nouvelle, aimait à dire en parlant de Gilberte. Je vous dirai que ce n'est pas pour moi une relation nouvelle. J'ai énormément connu la mère de cette petite. Tenez, c'était une grande amie à ma cousine Marsante. C'est chez moi qu'elle a connu le père de Gilberte. Quant au pauvre Saint-Loup, je connaissais d'avance toute sa famille. Son propre oncle était mon intime autrefois à la Raspelière. Vous voyez que les Verdurins n'étaient pas du tout des bohèmes, me disaient les gens qui entendaient parler ainsi la princesse de Guermantes. C'étaient des amis de tout temps de la famille de madame de Saint-Loup. J'étais peut-être seule à savoir par mon grand-père qu'en effet les Verdurins n'étaient pas des bohèmes. Mais ce n'était pas précisément parce qu'ils avaient connu Odette. Mais on arrange aisément les récits du passé que personne ne connaît plus, comme ceux des voyages dans les pays où personne n'est jamais allé. Enfin, conclut Gilberte, puisque vous sortez quelquefois de votre tour d'ivoire, des petites réunions intimes chez moi, où j'inviterai des esprits sympathiques, ne vous conviendraient-elles pas mieux? Ces grandes machines comme ici sont bien peu faites pour vous. Je vous voyais causer avec ma tante Oriane, qui a toutes les qualités qu'on voudra, mais à qui nous ne ferons pas tort, n'est-ce pas, en déclarant qu'elle n'appartient pas à l'élite pensante. » Je ne pouvais mettre Gilberte au courant des pensées que j'avais depuis une heure, mais je crus que, sur un point de pure distraction, elle pourrait servir mes plaisirs, lesquels, en effet, ne me semblaient pas devoir être de parler littérature avec la duchesse de Guermantes plus qu'avec madame de Saint-Loup. Certes, j'avais l'intention de recommencer dès demain, bien qu'avec un but cette fois, à vivre dans la solitude. Même chez moi, je ne laisserai pas les gens venir me voir dans mes instants de travail, car le devoir de faire mon œuvre primait celui d'être poli, ou même bon. Ils insisteraient sans doute. Ceux qui ne m'avaient pas vu depuis si longtemps venaient de me retrouver et me juger guéri. Ils insisteraient, venant quand le labeur de leur journée, de leur vie, serait fini ou interrompu. Et ayant alors le même besoin de moi que j'avais eu autrefois de Saint-Loup. Et cela parce que, comme je m'en étais aperçu à Combray quand mes parents me faisaient des reproches au moment où je venais de prendre à leur insu les plus louables résolutions, les cadrans intérieurs qui sont départis aux hommes ne sont pas tous réglés à la même heure. L'un sonne celle du repos en même temps que l'autre celle du travail. L'un celle du châtiment par le juge, quand chez le coupable, celle du repentir et du perfectionnement intérieur est sonnée depuis longtemps. Mais j'aurai le courage de répondre à ceux qui viendraient me voir ou me feraient chercher que j'avais, pour des choses essentielles au courant desquelles il fallait que je fusse mis sans retard, un rendez-vous urgent, capital, avec moi-même. Et pourtant, bien qu'il y ait peu de rapport entre notre moi véritable et l'autre, à cause de l'anonymat et du corps commun aux deux, l'abnégation qui vous fait faire le sacrifice des devoirs plus faciles, même des plaisirs, paraît aux autres de l'égoïsme. Et d'ailleurs, n'était-ce pas pour m'occuper d'eux que je vivrais loin de ceux qui se plaindraient de ne pas me voir ? Pour m'occuper d'eux plus à fond que je n'aurais pu le faire avec eux, pour chercher à les révéler à eux-mêmes, à les réaliser? À quoi eût servi que pendant des années encore, j'eusse perdu des soirées à faire glisser sur l'écho à peine expiré de leurs paroles le son tout aussi vain des miennes, pour le stérile plaisir d'un contact mondain qui exclut toute pénétration? Ne valait-il pas mieux que ces gestes qu'ils faisaient, ces paroles qu'ils disaient, leur vie, leur nature, j'essayasse d'en décrire la courbe et d'en dégager la loi? Malheureusement, j'aurais à lutter contre cette habitude de se mettre à la place des autres, qui, si elle favorise la conception d'une œuvre, en retarde l'exécution. Car, par une politesse supérieure, elle pousse à sacrifier aux autres non seulement son plaisir, mais son devoir, quand, se mettant à la place des autres, le devoir quel qu'il soit, fût-ce pour quelqu'un qui ne veut rendre aucun service au front, de rester à l'arrière s'il est utile, paraîtra comme ce qu'il n'est pas en réalité, notre plaisir. Et bien loin de me croire malheureux de cette vie sans amis, sans causerie, comme il est arrivé au plus grand de le croire, je me rendais compte que les forces d'exaltation qui se dépensent dans l'amitié sont une sorte de porte-à-faux, visant une amitié particulière qui ne mène à rien, et se détourne d'une vérité vers laquelle elles étaient capables de nous conduire. Mais enfin, quand des intervalles de repos et de société me seraient nécessaires, je sentais que, plutôt que les conversations intellectuelles que les gens du monde croient utiles aux écrivains, de légères amours avec des jeunes filles en fleurs seraient un aliment choisi que je pourrais à la rigueur permettre à mon imagination semblable au cheval fameux qu'on ne nourrissait que de roses. Ce que tout d'un coup je souhaitais de nouveau, c'est ce dont j'avais rêvé à Balbec, quand, sans les connaître encore, j'avais vu passer devant la mer Albertine, André et leurs amis. Mais hélas, je ne pouvais plus chercher à retrouver celle que justement en ce moment je désirais si fort. L'action des années qui avait transformé tous les êtres que j'avais vus aujourd'hui, et Gilberte elle-même, avait certainement fait de toutes celles qui survivaient, comme elle eût fait d'Albertine si elle n'avait pas péri, des femmes trop différentes de ce que je me rappelais. Je souffrais d'être obligée de moi-même à atteindre celle-là, car le temps qui change les êtres ne modifie pas l'image que nous avons gardée d'eux. Rien n'est plus douloureux que cette opposition entre l'altération des êtres et la fixité du souvenir, quand nous comprenons que ce qui a gardé tant de fraîcheur dans notre mémoire n'en peut plus en avoir dans la vie, que nous ne pouvons, au dehors, nous rapprocher de ce qui nous paraît si beau au-dedans de nous, de ce qui excite en nous un désir pourtant si individuel, de le revoir. Ce violent désir que la mémoire excitait en moi pour ces jeunes filles vues jadis, je sentais que je ne pourrais espérer l'assouvir qu'à condition de le chercher dans un être du même âge, c'est-à-dire dans un autre être. J'avais pu souvent soupçonner que ce qui semble unique dans une personne qu'on désire ne lui appartient pas. Mais le temps écoulé m'en donnait une preuve plus complète, puisque, après 20 ans, spontanément, je voulais chercher, au lieu des filles que j'avais connues, celles possédant maintenant la jeunesse que les autres avaient alors. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le réveil de nos désirs charnels qui ne correspond à aucune réalité, parce qu'il ne tient pas compte du temps perdu. Il m'arrivait parfois de souhaiter que par un miracle vinssent auprès de moi, restée vivante contrairement à ce que j'avais cru, ma grand-mère, Albertine. Je croyais les voir, mon cœur s'élançait vers elle. J'oubliais seulement une chose, c'est que, si elle vivait encore, Albertine aurait à peu près maintenant l'aspect que m'avait présenté à Balbec Madame Cottard, et que ma grand-mère, ayant plus de 95 ans, ne me montrerait rien du beau visage calme et souriant avec lequel je l'imaginais encore maintenant. Aussi arbitrairement qu'on donne une barbe à Dieu le Père, ou qu'on représentait, au XVIIe siècle, les héros d'Homère avec un accoutrement de gentilhomme et sans tenir compte de leur antiquité. Je regardais Gilberte et je ne pensais pas « je voudrais la revoir ». Mais je lui dis qu'elle me ferait toujours plaisir en m'invitant avec des jeunes filles, sans que j'eusse, d'ailleurs, à leur rien demander que de faire renaître en moi les rêveries, les tristesses d'autrefois, peut-être un jour improbable un chaste baiser. Comme Elstir aimait avoir incarné devant lui, dans sa femme, la beauté vénitienne, qu'il avait si souvent peinte dans ses œuvres, je me donnais l'excuse d'être attirée, par un certain égoïsme esthétique, vers les belles femmes qui pouvaient me causer de la souffrance, et j'avais un certain sentiment d'idolâtrie pour les futures Gilberte, les futures duchesses de Guermantes, les futures Albertine que je pourrais rencontrer, et qui, me semblait-il, pourraient m'inspirer, comme un sculpteur qui se promène au milieu de beaux marbres antiques. J'aurais dû pourtant penser qu'antérieur à chacune était mon sentiment du mystère où elle baignait, et qu'ainsi, plutôt que de demander à Gilberte de me faire connaître des jeunes filles, j'aurais mieux fait d'aller dans ces lieux où rien ne nous rattache à elle, où, entre elle et soi, on sent quelque chose d'infranchissable, où, à deux pas sur la plage allant au bain, on se sent séparé d'elle par l'impossible. C'est ainsi que mon sentiment du mystère avait pu s'appliquer successivement à Gilberte, à la duchesse de Guermantes, à Albertine, à tant d'autres. Sans doute, l'inconnu et presque l'inconnaissable était devenu le commun, le familier, indifférent ou douloureux, mais retenant de ce qu'il avait été un certain charme. Et, à vrai dire, comme dans ces calendriers que le facteur nous apporte pour avoir ses étrennes, il n'était pas une de mes années qui n'ait eu à son frontispice, ou intercalé dans ses jours, l'image d'une femme que j'y avais désirée. Image souvent d'autant plus arbitraire que parfois je n'avais pas vu cette femme, quand c'était, par exemple, la femme de chambre de Madame Bulbu, Mademoiselle d'Orgeville, ou telle jeune fille dont j'avais vu le nom dans le compte-rendu mondain d'un journal parmi l'essaim des charmantes valseuses. Je la devinais belle, m'éprenais d'elle, et lui composait un corps idéal, dominant de toute sa hauteur un paysage de la province où j'avais lu, dans l'annuaire des châteaux, que se trouvaient les propriétés de sa famille. Pour les femmes que j'avais connues, ce paysage était au moins double. Chacune s'élevait, à un point différent de ma vie, dressée comme une divinité protectrice et locale. D'abord au milieu d'un de ces paysages rêvés, dont la juxtaposition quadrillait ma vie et où je m'étais attachée à l'imaginer. Ensuite, vue du côté du souvenir, entourée des sites où je l'avais connue et qu'elle me rappelait, y restant attachée. Car si notre vie est vagabonde, notre mémoire est sédentaire, et nous avons beau nous élancer sans trêve, nos souvenirs, eux, rivés au lieu dont nous nous détachons, continuent à y continuer leur vie casanière, comme ces amis momentanés que le voyageur s'était fait dans une ville et qu'il est obligé d'abandonner quand il la quitte, parce que c'est là qu'eux, qui ne partent pas, finiront leur journée et leur vie, comme s'il était là encore, au pied de l'église, devant la porte et sous les arbres du cours. Si bien que l'ombre de Gilberte s'allongeait, non seulement devant une église de l'Île-de-France où je l'avais imaginée, mais aussi sur l'allée d'un parc, du côté de mes églises. Celle de Madame de Guermantes dans un chemin humide où montaient en quenouille des grappes violettes et rougeâtres, ou sur l'or matinal d'un trottoir parisien. Et cette seconde personne, celle née non du désir mais du souvenir, n'était pour chacune de ces femmes unique. Car chacune, je l'avais connue à diverses reprises, en des temps différents, où elle était une autre pour moi, où moi-même j'étais autre, baignant dans des rêves d'une autre couleur. Or, la loi qui avait gouverné les rêves de chaque année, maintenant assemblés autour d'eux, les souvenirs d'une femme que j'y avais connue, tout ce qui se rapportait, par exemple, à la duchesse de Guermantes au temps de mon enfance, était concentré par une force attractive autour de Combray. Et tout ce qui avait trait à la duchesse de Guermantes, qui allait tout à l'heure m'inviter à déjeuner, autour d'un sensitif tout différent. Il y avait plusieurs duchesses de Guermantes, comme il y avait eu, depuis la Dame en rose, plusieurs Madame Swann, séparées par les terres incolores des années. Et de l'une à l'autre, desquelles je ne pouvais pas plus sauter que si j'avais eu à quitter une planète pour aller dans une autre planète, que les terres en séparent. Non seulement séparées, mais différentes, parées des rêves que j'avais eus dans des temps si différents, comme d'une flore particulière qu'on ne retrouvera pas dans une autre planète. Au point qu'après avoir pensé que je n'irai déjeuner ni chez Madame de Forcheville, ni chez Madame de Guermantes, je ne pouvais me dire, tant cela m'eût transporté dans un monde autre, que l'une n'était pas une personne différente de la duchesse de Guermantes qui descendait de Geneviève de Brabant, et l'autre de la Dame en rose, que parce qu'en moi, un homme instruit me l'affirmait, avec la même autorité qu'un savant qui m'eût affirmé qu'une voie lactée de nébuleuse était due à la segmentation d'une seule et même étoile. Telle Gilberte, à qui je demandais pourtant, sans m'en rendre compte, de me permettre d'avoir des amis comme elle avait été autrefois, n'était plus pour moi que Madame de Saint-Loup. Je ne songeais plus en la voyant au rôle qu'avait eu jadis dans mon amour, oublié lui aussi par elle, mon admiration pour Bergotte redevenu pour moi simplement l'auteur de ses livres, sans que je me rappelasse, que dans des souvenirs rares et entièrement séparés, les mois d'avoir été présenté à l'homme, la déception, l'étonnement de sa conversation, dans le salon aux fourrures blanches, plein de violettes, où on apportait, sitôt, sur tant de consoles différentes, tant de lampes. Tous les souvenirs qui composaient la première Mademoiselle Swann étaient, en effet, retranchés de la Gilberte actuelle, retenus bien loin par les forces d'attraction d'un autre univers, autour d'une phrase de Bergotte avec laquelle il faisait corps et baigné d'un parfum d'aubépine. La fragmentaire Gilberte d'aujourd'hui écouta ma requête en souriant. Puis, en se mettant à y réfléchir, elle prit un air sérieux en ayant l'air de chercher dans sa tête. Et j'en fus heureux, car cela l'empêcha de faire attention à un groupe qui se trouvait non loin de nous et dont la vue n'eût pu certes lui être agréable. On y remarquait la duchesse de Guermantes en grande conversation avec une affreuse vieille femme que je regardais sans pouvoir du tout deviner qui elle était. Je n'en savais absolument rien.
« Comme c'est drôle de voir ici Rachel !» me dit à l'oreille Bloch qui passait à ce moment.
Ce nom magique rompit aussitôt l'enchantement qui avait donné à la maîtresse de Saint-Loup la forme inconnue de cette immonde vieille, et je la reconnus alors parfaitement. De même, j'ai dit ailleurs que dès qu'on me nommait les hommes dont je ne pouvais reconnaître les visages, l'enchantement cessait, et que je les reconnaissais. Pourtant, il y en eut un que, même nommé, je ne pus reconnaître, et je crus à un homonyme, car il n'avait aucune espèce de rapport avec celui que non seulement j'avais connu autrefois, mais que j'avais retrouvé il y a quelques années. C'était pourtant lui, blanchi seulement et engraissé. Mais il avait rasé ses moustaches, et cela avait suffi pour lui faire perdre sa personnalité. Pour en revenir à Rachel, c'était bien avec elle, devenue une actrice célèbre et qui allait, au cours de cette matinée, réciter des vers de Musset et de La Fontaine, que la tante de Gilberte, la duchesse de Guermantes, causait en ce moment. Or, la vue de Rachel ne pouvait en tout cas être bien agréable à Gilberte, et je fus d'autant plus ennuyée d'apprendre qu'elle allait réciter des vers, et de constater son intimité avec la duchesse. Celle-ci, consciente depuis trop longtemps d'occuper la première situation de Paris, ne se rendant pas compte qu'une telle situation n'existe que dans les esprits qui y croient, et que beaucoup de nouvelles personnes, si elles ne la voyaient nulle part, si elles ne lisaient son nom dans le compte-rendu d'aucune fête élégante, croiraient, en effet, qu'elle n'occupait aucune situation. Ne voyez plus qu'en visite aussi rare et aussi espacée qu'elle pouvait, le faubourg Saint-Germain, qui, disait-elle, l'ennuyait à mourir. Et, en revanche, se passait la fantaisie de déjeuner avec telle ou telle actrice qu'elle trouvait délicieuse. La duchesse hésitait encore, par peur d'une scène de M. de Guermantes, devant Balti et Mistinguette, qu'elle trouvait adorable, mais avait décidément Rachel pour amie. Les nouvelles générations en concluaient que la duchesse de Guermantes, malgré son nom, devait être quelque demi-castor qui n'avait jamais été tout à fait du gratin. Il est vrai que, pour quelque souverain dont l'intimité lui était disputée par deux autres grandes dames, Madame de Guermantes se donnait encore la peine de les avoir à déjeuner. Mais, d'une part, ils viennent rarement, connaissent des gens de peu, et la duchesse, par la superstition des Guermantes, à l'égard du vieux protocole, car à la fois les gens bien élevés la sommaient, et elle tenait à la bonne éducation. Faisait maître, Sa Majesté a ordonné à la duchesse de Guermantes à daigner, etc. Et les nouvelles couches, ignorantes de ces formules, en concluait que la position de la duchesse était d'autant plus basse. Au point de vue de Madame de Guermantes, cette intimité avec Rachel pouvait signifier que nous nous étions trompés, car nous croyions Madame de Guermantes hypocrite et menteuse dans ses condamnations de l'élégance, car nous croyons qu'au moment où elle refusait d'aller chez Madame de Sainte-Verte, ce n'était pas au nom de l'intelligence, mais du snobisme qu'elle agissait ainsi, ne la trouvant bête que parce que la marquise laissait voir qu'elle était snob, n'ayant pas encore atteint son but. Mais cette intimité avec Rachel pouvait signifier aussi que l'intelligence était, en réalité, chez la duchesse, médiocre, insatisfaite et désireuse sur le tard, quand elle était fatiguée du monde, de réalisation, par ignorance totale des véritables réalités intellectuelles et une pointe de cet esprit de fantaisie qui fait à des dames très bien qui se disent « comme ce sera amusant !» finir leur soirée d'une façon, à vrai dire, assommante, en puisant la force d'aller réveiller quelqu'un, à qui finalement on ne sait que dire, près du lit de qui on reste un moment dans son manteau de soirée, après quoi, ayant constaté qu'il est fort tard, on finit par aller se coucher. Il faut ajouter qu'une vive antipathie qu'avait depuis peu pour Gilberte la versatile duchesse pouvait lui faire prendre un certain plaisir à recevoir Rachel, ce qui lui permettait en plus de proclamer une des maximes des Guermantes, à savoir qu'ils étaient trop nombreux pour épouser les querelles, presque pour prendre le deuil, les uns des autres, indépendance de « je n'ai pas à » qu'avait renforcé la politique qu'on avait dû adopter à l'égard de M. de Charlus, lequel, si on l'avait suivi, vous eût brouillé avec tout le monde. Quant à Rachel, si elle s'était en réalité donné une grande peine pour se lier avec la duchesse de Guermantes, peine que la duchesse n'avait pas su démêler sous des dédains affectés, des impolitesses voulues, qui l'avaient piquée au jeu et lui avaient donné grande idée d'une actrice si peu snob. Sans doute cela tenait, d'une façon générale, à la fascination que les gens du monde exercent à partir d'un certain moment sur les bohèmes les plus endurcis, parallèle à celle que ces bohèmes exercent eux-mêmes sur les gens du monde, double reflux qui correspond à ce qu'est, dans l'ordre politique, la curiosité réciproque et le désir de faire alliance entre peuples qui se sont combattus. Mais le désir de Rachel pouvait avoir une raison plus particulière. C'est chez Madame de Guermantes, c'est de Madame de Guermantes qu'elle avait reçu jadis sa plus terrible avanie. Rachel l'avait peu à peu, non pas oublié, mais pardonné. Mais le prestige singulier qu'en avait reçu à ses yeux la duchesse ne devait s'effacer jamais. L'entretien de l'attention duquel je désirais détourner Gilberte fut du reste interrompu, car la maîtresse de maison vint chercher Rachel, dont c'était le moment de réciter, et qui, bientôt, ayant quitté la duchesse, parut sur l'estrade. Or, pendant ce temps, avait lieu à l'autre bout de Paris un spectacle bien différent. La Berma avait convié quelques personnes à venir prendre le thé pour fêter son fils et sa belle-fille. Mais les invités ne se pressaient pas d'arriver. Ayant appris que Rachel récitait des vers chez la princesse de Guermantes, ce qui scandalisait fort la Berma, grande artiste pour laquelle Rachel était restée une grue qu'on laissait figurer dans les pièces où elle-même, la Berma, jouait le premier rôle, parce que Saint-Loup lui payait ses toilettes pour la scène. Scandale d'autant plus grand que la nouvelle avait couru dans Paris, que les invitations étaient au nom de la princesse de Guermantes, mais que c'était Rachel qui, en réalité, recevait chez la princesse. La Berma avait écrit avec insistance à quelques fidèles pour qu'ils ne manquassent pas à son goûter, car elle les savait aussi amis de la princesse de Guermantes qu'ils avaient connus vers Durin. Or, les heures passaient et personne n'arrivait chez la Berma. Bloch, à qui on avait demandé s'il voulait y venir, avait répondu naïvement « Non, j'aime mieux aller chez la princesse de Guermantes ». Hélas, c'est ce qu'au fond de soi chacun avait décidé. La Berma, atteinte d'une maladie mortelle qui la forçait à fréquenter peu le monde, avait vu son état s'aggraver quand, pour subvenir aux besoins de luxe de sa fille, besoin que son gendre, souffrant et paresseux, ne pouvait satisfaire, elle s'était remise à jouer. Elle savait qu'elle abrégeait ses jours, mais voulait faire plaisir à sa fille, à qui elle rapportait de gros cachets. À son gendre, qu'elle détestait, mais flattait, car, le sachant adoré par sa fille, elle craignait, si elle le mécontentait, qu'il la privât, par méchanceté, de voir celle-ci. La fille de la Berma, qui n'était cependant pas positivement cruelle, et était aimée en secret par le médecin qui soignait sa mère, s'était laissée persuader que ses représentations de Phèdre n'étaient pas bien dangereuses pour la malade. Elle avait, en quelque sorte, forcé le médecin à le lui dire, n'ayant retenu que cela de ce qu'il lui avait répondu, et parmi des objections dont elle ne tenait pas compte. En effet, le médecin avait dit ne pas voir grand inconvénient aux représentations de la Berma. Il l'avait dit parce qu'il sentait qu'il ferait ainsi plaisir à la jeune femme qu'il aimait. Peut-être aussi par ignorance, parce qu'aussi il savait de toute façon la maladie inguérissable, et qu'on se résigne volontiers à abréger le martyre des malades, quand ce qui est destiné à l'abréger nous profite à nous-mêmes. Peut-être aussi par la bête conception que cela faisait plaisir à la Berma et devait donc lui faire du bien. Bête conception qui lui parut justifiée quand, ayant reçu une loge des enfants de la Berma et ayant pour cela lâché tous ses malades, il l'avait trouvée aussi extraordinaire de vie sur la scène qu'elle semblait moribonde à la ville. Et en effet, nos habitudes nous permettent, dans une large mesure, permettent même à nos organismes de s'accommoder d'une existence qui semblerait au premier abord ne pas être possible. Qui n'a vu un vieux maître de manège cardiaque faire toutes les acrobaties auxquelles on aurait pu croire que son cœur résisterait une minute? La Berma n'était pas une moins vieille habituée de la scène, aux exigences de laquelle ses organes étaient si parfaitement adaptés qu'elle pouvait donner, en se dépensant avec une prudence indiscernable pour le public, l'illusion d'une bonne santé, troublée seulement par un mal purement nerveux et imaginaire. Après la scène de la déclaration à Hippolyte, la Berma avait beau sentir l'épouvantable nuit qu'elle allait passer, ses admirateurs l'applaudissaient à toute force, la déclarant plus belle que jamais. Elle rentrait dans d'horribles souffrances, mais heureuse d'apporter à sa fille les billets bleus que, par une gaminerie de vieil enfant de la balle, elle avait l'habitude de serrer dans ses bas, d'où elle les sortait avec fierté, espérant un sourire, un baiser. Malheureusement, ces billets ne faisaient que permettre au gendre et à la fille de nouveaux embellissements de leur hôtel, contigu à celui de leur mère, d'où d'incessants coups de marteau qui interrompaient le sommeil dont la grande tragédienne aurait eu tant besoin. Selon les variations de la mode, et pour se conformer au goût de monsieur de X ou de Y, qu'ils espéraient recevoir, ils modifiaient chaque pièce. Et la Berma, sentant que le sommeil, qui seul aurait calmé sa souffrance, s'était enfui, se résignait à ne pas se rendormir, non sans un secret mépris pour ses élégances qui avançaient sa mort, rendaient atroces ses derniers jours. C'est sans doute un peu à cause de cela qu'elle les méprisait. Vengeance naturelle contre ce qui nous fait mal et que nous sommes impuissants à empêcher. Mais c'est aussi parce qu'ayant conscience du génie qui était en elle, ayant appris dès son plus jeune âge l'insignifiance de tous ces décrets de la mode, elle était quant à elle restée fidèle à la tradition qu'elle avait toujours respectée, dont elle était l'incarnation, qui lui faisait juger les choses et les gens comme 30 ans auparavant. Et par exemple, juger Rachel, non comme l'actrice à la mode qu'elle était devenue, mais comme la petite grue qu'elle avait connue. La Berma n'était pas du reste meilleure que sa fille. C'est en elle que sa fille avait puisé, par l'hérédité et par la contagion de l'exemple, qu'une admiration trop naturelle rendait plus efficace. Son égoïsme, son impitoyable raillerie, son inconsciente cruauté. Seulement, tout cela, la Berma l'avait immolé à sa fille et s'en était ainsi délivrée. D'ailleurs, la fille de la Berma n'eût-elle pas eu sans cesse des ouvriers chez elle, qu'elle eût fatigué sa mère, comme les forces attractives, féroces et légères de la jeunesse fatiguent la vieillesse, la maladie, qui se surmènent à vouloir les suivre. Tous les jours, c'était un déjeuner nouveau, et on eût trouvé la Berma égoïste d'en priver sa fille, même de ne pas assister au déjeuner, où on comptait, pour attirer bien difficilement quelques relations récentes et qui se faisaient tirer l'oreille, sur la présence prestigieuse de la mère illustre. On la promettait à ces mêmes relations pour une fête au dehors, afin de leur faire une politesse. Et la pauvre mère, gravement occupée dans son tête-à-tête avec la mort installée en elle, était obligée de se lever de bonne heure, de sortir. Bien plus, comme à la même époque, Réjeanne, dans tout l'éblouissement de son talent, donna à l'étranger des représentations qui eurent un succès énorme, le gendre trouva que la Berma ne devait pas se laisser éclipser, voulut que la famille ramassât la même profusion de gloire, et força la Berma à des tournées où on était obligé de la piquer à la morphine, ce qui pouvait la faire mourir à cause de l'état de ses reins. Ce même attrait de l'élégance, du prestige social, de la vie, avait, le jour de la fête chez la princesse de Guermantes, fait pompe aspirante et avait amené là-bas, avec la force d'une machine pneumatique, même les plus fidèles habitués de la Berma, où, par contre, et en conséquence, il y avait vide absolu et mort. Un seul jeune homme, qui n'était pas certain que la fête chez la Berma ne fût, elle aussi, brillante, était venu. Quand la Berma vit l'heure passer et comprit que tout le monde la lâchait, elle fit servir le goûter et on s'assit autour de la table, mais comme pour un repas funéraire. Rien dans la figure de la Berma ne rappelait plus celle dont la photographie m'avait, un soir de mi-carême, tant troublée. La Berma avait, comme dit le peuple, la mort sur le visage. Cette fois, c'était bien d'un marbre de l'érectéon qu'elle avait l'air. Ses artères durcies étant déjà à demi pétrifiées, on voyait de longs rubans sculpturaux parcourir les joues, avec une rigidité minérale. Les yeux mourants vivaient, relativement, par contraste avec ce terrible masque ossifié, et brillaient faiblement comme un serpent endormi au milieu des pierres. Cependant, le jeune homme, qui s'était mis à la table par politesse, regardait sans cesse l'heure, attiré qu'il était par la brillante fête chez les Guermantes. La Berma n'avait pas un mot de reproche à l'adresse des amis qu'il avait lâchés, et qui espéraient naïvement qu'elle ignorerait qu'ils étaient allés chez les Guermantes. Elle murmura seulement « Une Rachel donnant une fête chez la princesse de Guermantes, il faut venir à Paris pour voir de ces choses-là. » Et elle mangeait silencieusement, et avec une lenteur solennelle, des gâteaux défendus, ayant l'air d'obéir à des rites funèbres. Le goûter était d'autant plus triste que le gendre était furieux que Rachel, que lui et sa femme connaissaient très bien, ne les eût pas invités. Son crève-cœur fut d'autant plus grand que le jeune homme invité lui avait dit connaître assez bien Rachel, pour que, s'il partait tout de suite chez les Guermantes, il pût lui demander d'inviter ainsi, à la dernière heure, le couple frivole. Mais la fille de la Berma savait trop à quel niveau infime sa mère situait Rachel, et qu'elle l'eût tué de désespoir en sollicitant de l'ancienne grue une invitation. Aussi avait-elle dit au jeune homme et à son mari que c'était chose impossible. Mais elle se vengeait en prenant pendant ce goûter des petites mines exprimant le désir des plaisirs, l'ennui d'être privée d'eux par cette gêneuse qu'était sa mère. Celle-ci faisait semblant de ne pas voir les mous de sa fille et adressait de temps en temps, d'une voix mourante, une parole aimable au jeune homme, le seul invité qui fut venu. Mais bientôt la chasse d'air qui emportait tout vers les Guermantes et qui m'y avait entraîné moi-même fut la plus forte. Il se leva et partit, laissant Phèdre ou la mort, on ne savait trop laquelle des deux, achever de manger avec sa fille et son gendre les gâteaux funéraires. La conversation que nous tenions, Gilberte et moi, fut interrompue par la voix de Rachel qui venait de s'élever. Le jeu de celle-ci était intelligent, car il présupposait la poésie que l'actrice était en train de dire comme un tout existant avant cette récitation et dont nous n'entendions qu'un fragment, comme si l'artiste, passant sur un chemin, s'était trouvé pendant quelques instants à portée de notre oreille. Néanmoins, les auditeurs avaient été stupéfaits en voyant cette femme, avant d'avoir émis un seul son, plier les genoux, tendre les bras, en berçant quelque être invisible, devenir cagneuse, et tout d'un coup, pour dire des vers fort connus, prendre un ton suppliant. L'annonce d'une poésie que presque tout le monde connaissait avait fait plaisir. Mais quand on avait vu Rachel, avant de commencer, chercher partout des yeux d'un air égaré, lever les mains d'un air suppliant et pousser comme un gémissement à chaque mot, chacun se sentit gêné, presque choqué de cette exhibition de sentiments. Personne ne s'était dit que réciter des vers pouvait être quelque chose comme cela. Peu à peu on s'habitue, c'est-à-dire qu'on oublie la première sensation de malaise, on dégage ce qui est bien, on compare dans son esprit diverses manières de réciter pour se dire « ceci c'est mieux, ceci moins bien ». La première fois de même, dans une cause simple, lorsqu'on voit un avocat s'avancer, lever en l'air un bras d'où retombe la toge, commencer d'un ton menaçant, on n'ose pas regarder les voisins, car on se figure que c'est grotesque. Mais après tout, c'est peut-être magnifique, et on attend d'être fixé. Tout le monde se regardait, ne sachant trop quelle tête faire. Quelques jeunesses mal élevées étouffèrent un fou rire. Chacun jetait à la dérobée sur son voisin le regard furtif que dans les repas élégants, quand on a auprès de soi un instrument nouveau, fourchette à homard, râpe à sucre, etc., dont on ne connaît pas le but et le maniement, on attache sur un convive plus autorisé qui, espère-t-on, s'en servira avant vous et vous donnera ainsi la possibilité de l'imiter. Ainsi fait-on encore quand quelqu'un cite un vers qu'on ignore, mais qu'on veut avoir l'air de connaître, et à qui, comme en cédant le pas devant une porte, on laisse à un plus instruit, comme une faveur, le plaisir de dire de qui il est. Tel, en entendant l'actrice, chacun attendait, la tête baissée et l'œil investigateur, que d'autres prissent l'initiative de rire ou de critiquer, ou de pleurer ou d'applaudir. Madame de Forcheville, revenue exprès de Guermantes, d'où la duchesse, comme nous le verrons, était à peu près expulsée, avait pris une mine attentive, tendue, presque carrément désagréable, soit pour montrer qu'elle était connaisseuse et ne venait pas en mondaine, soit par hostilité pour les gens moins versés dans la littérature qui eussent pu lui parler d'autre chose, soit par contention de toute sa personne afin de savoir si elle aimait ou si elle n'aimait pas, ou peut-être parce que, tout en trouvant cela intéressant, elle n'aimait pas, du moins la manière de dire certains vers. Cette attitude eût dû être plutôt adoptée, semble-t-il, par la princesse de Guermantes. Mais comme c'était chez elle, et que, devenue aussi avare que riche, elle était décidée à ne donner que 5 roses à Rachel, elle faisait la claque. Elle provoquait l'enthousiasme et faisait la presse en poussant à tout moment des exclamations ravies. Là seulement, elle se retrouvait vers Durin, car elle avait l'air d'écouter les vers pour son propre plaisir, d'avoir eu l'envie qu'on vint les lui dire, à elle toute seule, et qu'il y eut par hasard là 500 personnes à qui elle avait permis de venir, comme en cachette, assister à son propre plaisir. Cependant, je remarquai sans aucune satisfaction d'amour-propre, car elle était devenue vieille et laide, que Rachel me faisait de l'œil, avec une certaine réserve d'ailleurs. Pendant toute la récitation, elle laissa palpiter dans ses yeux un sourire réprimé et pénétrant qui semblait l'amorce d'un acquiescement qu'elle eût souhaité venir de moi. Cependant, quelques vieilles dames, peu habituées aux récitations poétiques, disaient à un voisin « Vous avez vu ?» faisant allusion à la mimique solennelle, tragique de l'actrice, et qu'elle ne savait comment qualifier. La duchesse de Guermantes sentit le léger flottement et décida de la victoire en s'écriant « C'est admirable !» au beau milieu du poème qu'elle crut peut-être terminé. Plus d'un invité tint alors à souligner cette exclamation d'un regard approbateur et d'une inclinaison de tête, pour montrer moins peut-être leur compréhension de la récitante que leur relation avec la duchesse. Quand le poème fut fini, comme nous étions à côté de Rachel, j'entendis celle-ci remercier Madame de Guermantes, et en même temps, profitant de ce que j'étais à côté de la duchesse, elle se tourna vers moi et m'adressa un gracieux bonjour. Je compris alors qu'au contraire des regards passionnés du fils de Monsieur de Vaugoubert, que j'avais pris pour le bonjour de quelqu'un qui se trompait, ce que j'avais pris chez Rachel pour un regard de désir n'était qu'une provocation contenue à se faire reconnaître et saluer par moi. Je répondis par un salut souriant au sien. « Je suis sûre qu'il ne me reconnaît pas !» dit en minaudant la récitante à la duchesse. « Mais si, dis-je avec assurance, je vous ai reconnue tout de suite !» Si, pendant les plus beaux vers de La Fontaine, cette femme, qui les récitait avec tant d'assurance, n'avait pensé, soit par bonté ou bêtise ou gêne, qu'à la difficulté de me dire bonjour, pendant les mêmes beaux vers, Bloch n'avait songé qu'à faire ses préparatifs pour pouvoir, dès la fin de la poésie, bondir comme un assiégé qui tente une sortie, et passant, sinon sur le corps, du moins sur les pieds de ses voisins, venir féliciter la récitante, soit par une conception erronée du devoir, soit par désir d'ostentation. « C'était bien beau !» dit-il à Rachel. Et ayant dit ces simples mots, son désir étant satisfait, il repartit et fit tant de bruit pour regagner sa place que Rachel dut attendre plus de 5 minutes avant de réciter la seconde poésie. Quand elle eut fini celle-ci, les deux pigeons, Madame de Morienval s'approcha de Madame de Saint-Loup, qu'elle savait fort lettrée, sans se rappeler assez qu'elle avait l'esprit subtil et sarcastique de son père, et lui demanda « C'est bien la fable de La Fontaine, n'est-ce pas ?» Croyant bien l'avoir reconnue, mais n'étant pas absolument certaine, car elle connaissait fort mal les fables de La Fontaine, et de plus, croyait que c'était des choses d'enfants qu'on ne récitait pas dans le monde. Pour avoir un tel succès, l'artiste avait sans doute « pastiché des fables de La Fontaine », pensait la bonne dame. Or, Gilberte, jusque-là impassible, l'enfonça sans le vouloir dans cette idée, car n'aimant pas Rachel et voulant dire qu'il ne restait rien des fables avec une diction pareille, elle le dit de cette nuance trop subtile qui était celle de son père, et qui laissait les personnes naïves dans le doute sur ce qu'il voulait dire. Généralement plus moderne, quoique fille de Swann, comme un canard couvé par une poule, elle était assez laquiste et se contentait de dire « Je trouve d'un touchant, c'est d'une sensibilité charmante. » Mais à Madame de Morienval, Gilberte répondit, sous cette forme fantaisiste de Swann, à laquelle se trompaient les gens qui prennent tout au pied de la lettre. Un quart est de l'invention de l'interprète, un quart de la folie, un quart n'a aucun sens, le reste est de la fontaine. Ce qui permit à Madame de Morienval de soutenir que ce qu'on venait d'entendre n'était pas les deux pigeons de la fontaine, mais un arrangement où tout au plus un quart était de la fontaine, ce qui n'étonna personne, vu l'extraordinaire ignorance de ce public. Mais un des amis de Bloch étant arrivé en retard, celui-ci eut la joie de lui demander s'il n'avait jamais entendu Rachel, de lui faire une peinture extraordinaire de sa diction, en exagérant et en trouvant tout d'un coup à raconter, à révéler à autrui, cette diction moderniste, un plaisir étrange qu'il n'avait nullement éprouvé à l'entendre. Puis Bloch, avec une émotion exagérée, félicita de nouveau Rachel sur un ton de fossé et de proclamer son génie, présenta son amie qui déclara n'admirer personne autant qu'elle. Et Rachel, qui connaissait maintenant des dames de la haute société et, sans s'en rendre compte, les copiait, répondit « Oh, je suis très flattée, très honorée par votre appréciation. » L'amie de Bloch lui demanda ce qu'elle pensait de la Berma. « Pauvre femme, il paraît qu'elle est dans la dernière misère. Elle n'a pas été, je ne dirais pas sans talent, car ce n'était pas au fond du vrai talent. Elle n'aimait que des horreurs. Mais enfin, elle a été utile, certainement. Elle jouait d'une façon assez vivante. » Et puis c'était une brave personne, généreuse, qui s'est ruinée pour les autres. Voilà bien longtemps qu'elle ne fait plus un sou, parce que le public n'aime pas du tout ce qu'elle fait. Du reste, ajouta-t-elle en riant, je vous dirai que mon âge ne m'a permis de l'entendre, naturellement, que tout à fait dans les derniers temps, et quand j'étais moi-même trop jeune pour me rendre compte. Elle ne disait pas très bien les vers, hasarda l'ami de Bloch pour flatter Rachel, qui répondit « Oh, ça, elle n'a jamais su en dire un. C'était de la prose, du chinois, du volapuc, tout excepté un vers. D'ailleurs, je vous dirai que, bien entendu, je ne l'ai entendu que très peu, sur sa fin, » ajouta-t-elle pour se rajeunir. « Mais on m'a dit qu'autrefois, ce n'était pas mieux, au contraire. » Je me rendais compte que le temps qui passe n'amène pas forcément le progrès dans les arts. Et de même que tel auteur du XVIIe siècle, qui n'a connu ni la Révolution française, ni les découvertes scientifiques, ni la guerre, peut être supérieur à tel écrivain d'aujourd'hui, et que peut-être même Fagon était un aussi grand médecin que du Boulbon, la supériorité du génie compensant ici l'infériorité du savoir. De même, la Berma était, comme on dit, à 100 pics au-dessus de Rachel. Et le temps, en la mettant en vedette en même temps qu'Elstir, avait consacré son génie. Il ne faut pas s'étonner que l'ancienne maîtresse de Saint-Loup débina la Berma. Elle l'eût fait quand elle était jeune. Ne l'eût-elle pas fait alors qu'elle l'eût fait maintenant? Qu'une femme du monde, de la plus haute intelligence, de la plus grande bonté, se fasse actrice, déploie dans ce métier nouveau, pour elle, de grands talents, n'y rencontre que des succès, on s'étonnera, si on se trouve auprès d'elle après longtemps, d'entendre non son langage à elle, mais celui des comédiennes, leur rosserie spéciale envers les camarades, tout ce qu'ajoute à l'être humain, quand ils ont passé sur lui, 30 ans de théâtre. Rachel se comportait de même, tout en ne sortant pas du monde. Madame de Guermantes, au déclin de sa vie, avait senti s'éveiller en soi des curiosités nouvelles. Le monde n'avait plus rien à lui apprendre. L'idée qu'elle y avait la première place était, nous l'avons vu, aussi évidente pour elle que la hauteur du ciel bleu par-dessus la terre. Elle ne croyait pas avoir à affermir une position qu'elle jugeait inébranlable. En revanche, lisant, allant au théâtre, elle eût souhaité avoir un prolongement de ses lectures, de ses spectacles. Comme jadis, dans les trois petits jardins où on prenait de l'orangeade, tout ce qu'il y avait de plus exquis dans le grand monde venait familièrement, parmi les brises parfumées du soir et les nuages de pollen, entretenir en elle le goût du grand monde. De même, maintenant, un autre appétit lui faisait souhaiter savoir les raisons de telles polémiques littéraires, connaître des auteurs, voire des actrices. Son esprit fatigué réclamait une nouvelle alimentation. Elle se rapprocha, pour connaître les uns et les autres, de femmes avec qui jadis elle n'eût pas voulu échanger de cartes, et qui faisaient valoir leur intimité avec le directeur de telle revue dans l'espoir d'avoir la duchesse. La première actrice invitée crut être la seule dans un milieu extraordinaire, lequel parut plus médiocre à la seconde quand elle vit celle qui l'y avait précédée. La duchesse, parce qu'à certains soirs elle recevait des souverains, croyait que rien n'était changé à sa situation. En réalité, elle, la seule d'un rang vraiment sans alliage, elle, qui, étant née Guermantes, pouvait signer Guermantes, Guermantes quand elle ne signait pas la duchesse de Guermantes, elle, qui, à ses belles-sœurs même, semblait quelque chose de plus précieux que tout, comme un Moïse sauvé des eaux, un Christ échappé en Égypte, un Louis XVII enfui du temple, le pur du pur. Maintenant, sacrifiant sans doute à ce besoin héréditaire de nourriture spirituelle qui avait fait la décadence sociale de Madame de Villeparisis, elle était devenue elle-même une Madame de Villeparisis, chez qui les femmes snobs redoutaient de rencontrer telle ou telle, et de laquelle les jeunes gens, constatant le fait accompli sans savoir ce qui l'a précédé, croyaient que c'était une Guermantes d'une moins bonne cuvée, d'une moins bonne année, une Guermantes déclassée. Dans les milieux nouveaux qu'elle fréquentait, restée bien plus la même qu'elle ne croyait, elle continuait à croire que s'ennuyer facilement était une supériorité intellectuelle. Mais elle l'exprimait avec une sorte de violence qui donnait à sa voix quelque chose de rauque. Comme je lui parlais de Brichot, « Il m'a assez embêté pendant 20 ans. » Et comme Madame de Cambremer disait, « Relisez ce que Schopenhauer dit de la musique. » Elle nous fit remarquer cette phrase en disant avec violence, « Relisez est un chef-d'œuvre. Ah non, ça, par exemple, il ne faut pas nous la faire. » Alors le vieux d'Albon sourit en reconnaissant une des formes de l'esprit Guermantes. « On peut dire ce qu'on veut, c'est admirable. Cela a de la ligne, du caractère. C'est intelligent. Personne n'a jamais dit les vers comme ça. » dit la duchesse en parlant de Rachel, craignant que Gilberte ne la débinât. Celle-ci s'éloigna vers un autre groupe pour éviter un conflit avec sa tante, laquelle d'ailleurs ne dit sur Rachel que des choses fort ordinaires. Mais puisque les meilleurs écrivains cessent souvent aux approches de la vieillesse ou après un excès de production d'avoir du talent, on peut bien excuser les femmes du monde de cesser, à partir d'un certain moment, d'avoir de l'esprit. Swann ne retrouvait plus dans l'esprit dur de la duchesse de Guermantes le fondu de la jeune princesse des Laumes. Sur le tard, fatiguée au moindre effort, Madame de Guermantes disait énormément de bêtises. Certes, à tout moment et bien des fois au cours même de cette matinée, elle redevenait la femme que j'avais connue et parlait des choses mondaines avec esprit. Mais à côté de cela, bien souvent, il arrivait que cette parole pétillante sous un beau regard, et qui pendant tant d'années avait tenu sous son sceptre spirituel les hommes les plus éminents de Paris, scintillât encore, mais, pour ainsi dire, à vide. Quand le moment de placer un mot venait, elle s'interrompait pendant le même nombre de secondes qu'autrefois. Elle avait l'air d'hésiter, de produire, mais le mot qu'elle lançait alors ne valait rien. Combien peu de personnes, d'ailleurs, s'en apercevaient, la continuité du procédé leur faisant croire à la survivance de l'esprit, comme il arrive à ces gens qui, superstitieusement attachés à une marque de pâtisserie, continuent à faire venir leurs petits fours d'une même maison sans s'apercevoir qu'ils sont devenus détestables. Déjà, pendant la guerre, la duchesse avait donné des marques de cet affaiblissement. Si quelqu'un disait le mot culture, elle l'arrêtait, souriait, allumait son beau regard et lançait « la culture !» ce qui faisait rire les amis qui croyaient retrouver là l'esprit des guermantes. Et certes, c'était le même moule, la même intonation, le même sourire qui avait jadis ravi Bergotte, lequel, du reste, s'il avait vécu, eût aussi gardé ses coupes de phrases, ses interjections, ses points suspensifs, ses épithètes, mais pour ne rien dire. Mais les nouveaux venus s'étonnaient et parfois disaient, s'ils n'étaient pas tombés un jour où elle était drôle et en pleine possession de ses moyens, « Comme elle est bête !» La duchesse, d'ailleurs, s'arrangeait pour canaliser son encanaillement et ne pas le laisser s'étendre à celle des personnes de sa famille desquelles elle tirait une gloire aristocratique. Si au théâtre elle avait, pour remplir son rôle de protectrice des arts, invité un ministre ou un peintre, et que celui-ci ou celui-là lui demanda naïvement si sa belle-sœur ou son mari n'étaient pas dans la salle, la duchesse, timorée, avec les apparences superbes de l'audace, répondait insolemment « Je n'en sais rien. Dès que je sors de chez moi, je ne sais plus ce que fait ma famille. Pour tous les hommes politiques, pour tous les artistes, je suis veuve. » Ainsi s'évitait-elle que le parvenu trop empressé s'attira des rebuffades et lui attira à elle-même des réprimandes de M. de Marsante et de Bazin.